Mais je voudrais surtout aujourd'hui vous parler, à l'occasion de l'élection du pape Jean XXIII, de vous parler de son prédécesseur qui a été si souvent attaqué et qui l'est toujours dans nos journaux, dans des revues. On en parle de façon désagréable et je ne sais pas. C'est assez curieux. Et alors, je pourrais aussi vous parler d'autres saints. Je voudrais aussi vous parler de saint Évariste, un des premiers papes, avant d'aborder l'un des derniers, Pie XII. Le premier pape, un des premiers papes, c'est saint Évariste, qui est mort vers l'an 100. Auparavant, je vais commencer avec ce que je vous avais promis avant-hier, c'est-à-dire de vous parler hier du bienheureux Philippe de Jesus Munaris et de ses 50 compagnons, fils du cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire 50 clarétins. Il y a eu une multitude de bienheureux qui ont été béatifiés le 25 octobre 1992. Le groupe le plus nombreux des martyrs que Jean-Paul II a béatifié, c'est le groupe de Barbastro. Ça mérite une attention particulière, hein. Ils proviennent tous du même séminaire de religieux clarétins. Nombre d'entre eux étaient des clercs tout proches du sacerdoce. Ils allaient être ordonnés prêtres, une grande partie d'entre eux. Oh, leur âge varie beaucoup. Mais durant la guerre civile en Espagne, ils ont été accusés sous différents prétextes. Ils ont été tout simplement assassinés. C'était vraiment invraisemblable dans cette guerre civile parce que, d'une part, d'un côté, il y avait une révolution qui se voulait, d'accord, elle était marxiste d'esprit, mais elle avait un souci évangélique en même temps. Et ces gens étaient aveuglés, parfois, par une haine contre l'Église. Ils étaient vraiment aveuglés. Et alors, ces chrétiens ont été accusés comme ça, puis les frappant, qu'ils aient été appelés à rendre témoignage du Christ, non pas individuellement, on leur posait pas de questions, mais c'était de façon communautaire, tous ensemble. De telle sorte qu'ils ont formé ces groupes-là, en un certain sens, une espèce de petit corps mystique, on pourrait dire. Et celui-ci, celui dont on célébrait le souvenir hier, on pourrait dire que c'était un séminaire martyr. Ce groupe de clarétins a affronté, disent tous les témoins, a affronté avec générosité et avec vaillance ce martyr. La force spirituelle et morale de ces jeunes gens, pour la plupart jeunes, nous est parvenue par des témoins vraiment oculaires, hein, des vrais témoins. Mais c'est parvenu aussi par leurs écrits, parce qu'ils ont pu écrire des lettres à leurs parents. Et à ce propos, on peut dire que les témoignages personnels de ces jeunes séminaristes sont éloquents. Et l'un d'entre eux écrivait d'ailleurs à sa famille, « En recevant ces lignes, rendez grâce au Seigneur pour le don si grand et remarquable que le Seigneur daigne m'accorder. » Et un autre écrit également, « Vive le cœur immaculé de Marie. Il nous fusille uniquement parce que nous sommes des religieux. » Et il ajoute dans sa langue maternelle, « Ne pleurez pas pour moi, je suis un martyr de Jésus-Christ. » Je suis un martyr de Jésus-Christ. En somme, ces martyrs de Barbastro, comme leur fondateur saint Antoine-Marie Claret, dont je vous ai parlé avant-hier, ont lutté vraiment pour défendre leur foi. Et ils ont perdu leur vie aux mains de ceux qui ont attenté à leur foi chrétienne. Ils ressentaient, comme Antoine-Marie Claret, le même désir de verser leur sang pour l'amour de Jésus et de Marie. Et voici maintenant, nous sommes de retour rencontre spirituelle et je voudrais vous parler de saint Évariste, ce pape qui est le successeur de saint Clément, d'après saint Irénée, puis Eusèbe qui a écrit l'histoire de l'Église du tout début. Alors il a été pape, ou plus exactement devrait-on dire, par respect justement peut-être pour des protestants qui trouvent que nous utilisons le mot pape trop rapidement dans l'histoire de l'Église, eh bien, je suis plein de compréhension et je vais vous avouer que on l'appelait plutôt l'évêque de Rome. Comme on appelle encore le pape l'évêque de Rome, hein? Car à cette époque, semble-t-il, le mot ou le terme de papa ou père s'appliquait à tout prélat, hein? Vers l'encens. C'est seulement d'ailleurs au VIe siècle environ que le titre de pape a commencé à être exclusivement réservé à l'évêque de Rome. Et d'après les chiffres qui ressortent de la liste des papes qui a été établie par Julius Africanus, ou si vous voulez, Jules l'Africain, au VIe siècle, mais Évariste aurait gouverné l'Église romaine, l'Église catholique, de 97 à 105. C'est pas très long, 8 ans. Mais, selon le Liber Pontificalis, il aurait siégé donc 9 ans et 10 mois sous plusieurs empereurs, un Domitien, Nerva, Trajan, un consulat de Dule, Valence et Vétus, puis aussi le consulat de Gallus et Bradua. Ça fait beaucoup de monde qui ont administré à l'époque l'Empire de Rome. Fallait qu'il navigue à travers tout ça. Et là, le Liber Pontificalis nous dit qu'Évariste, pape Évariste, ou si vous voulez l'évêque de Rome Évariste, était grec. Oui, oui, c'était un grec d'Antioche. Et pas seulement un grec d'Antioche, mais il avait un père juif qui s'appelait Jude, et ce sera justement la fête de Saint-Jude samedi. Un père juif nommé Jude, né à Bethléem. Et ce pape, donc, est déclaré martyr par le Liber Pontificalis, de même que 7 ou 9 autres évêques de Rome, sans qu'on en voie vraiment la raison. On essaie de trouver de vieux documents qui pourraient nous expliquer, mais on n'en a pas. Avant le pape Évariste, le pape Saint-Clet, qu'on mentionnait autrefois, n'est-ce pas, dans le canon de la messe de Saint-Pie V, Clet, Anaclet, on répétait ça, bien, Clet avait ordonné 25 prêtres, et Évariste leur a donné des églises paroissiales. L'apôtre Saint-Pierre avait déjà établi, lui, 7 diacres. Saint-Évariste a décidé que les diacres, c'est assez étonnant, hein, que les diacres assisteraient l'évêque à l'autel en déclamant la préface de la messe. Il déclamait la préface de la messe à l'époque, hein, pour rendre au besoin témoignage de l'orthodoxie, de la pensée orthodoxe ou fidèle à l'Église de l'évêque. Et saint Évariste a été enterré près du corps de saint Pierre, le premier pape, au Vatican, le 6 des calendes de novembre, c'est-à-dire le 27 octobre. Or, si Évariste est dans la liste des martyrs de l'Église, on date au début sa sépulture du 27 octobre, mais c'est quelque temps plus tard qu'on a fait des calculs plus précis. C'est vraiment le 26 octobre, c'est aujourd'hui son anniversaire. Le nom de Évariste vient du grec, Euarestos, qui veut dire, qui est fort charmant, plaisant et agréable. Alors, si vous avez un oncle Évariste, c'est qu'il était probablement plaisant et agréable, je l'espère pour vous. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si on n'a pas toujours tous les renseignements qu'il faut au sujet des premiers papes, on en a quand même, on en a d'assez précis. sur leur fidélité, leur orthodoxie, leur attachement à la foi. Et ça me rappelle que je vous ai déjà mentionné cette grande histoire des papes de Ludwig Pasteur, ce luthérien admirable qui a fait une étude très poussée et qui finalement est entré dans l'Église catholique avant de terminer son travail, il était rendu au 28e volume, je crois, et ça en a 35 au total. C'est absolument phénoménal, cette histoire des papes de Ludwig Pasteur, un éminent luthérien qui, j'espère, en devenant catholique, n'a rien perdu de ses grandes qualités de luthérien. Vous savez qu'actuellement, il y a de grands pourparlers entre l'Église luthérienne et l'Église catholique qui avancent constamment, et c'est admirable. Et nous avons chez les luthériens beaucoup, beaucoup de choses en commun avec nous. Si ce pape Évariste que je viens de vous mentionner est un saint, je crois que l'un des derniers papes, Pie XII, pourrait l'être, malgré tout ce qu'on dit contre lui. Mais je voudrais justement aborder assez longuement cette question, car c'est pas tout à fait l'anniversaire de sa mort. Il est mort le 9 octobre 1958, mais il a été remplacé ces jours-ci, c'est l'anniversaire, par le cardinal Roncalli, le bon gros cardinal Roncalli, le pape Jean XXIII. Je vais vous lire certains détails au sujet de la vie de Pie XII. En 1917, ce pape, qui s'appelait Eugène Pacelli, a été nommé comme ambassadeur du Vatican, nonce si vous voulez, à Munich. C'était l'unique poste de représentation diplomatique du Saint-Siège en Allemagne, en 1917. La guerre n'était pas encore terminée, la guerre 14-18. Il a parlé l'allemand à la perfection, comme il parlait le français d'ailleurs, et l'anglais. Il parlait d'innombrables langues. Ce pape était extraordinairement instruit. D'ailleurs, il a laissé des écrits extrêmement sérieux. C'est très facile de dire que les écrits des papes, c'est illisible, c'est sans intérêt. C'est donc facile, quand on ne les a pas lus. En décembre 1929, donc peu après ce fameux crash sur le plan économique dans le monde entier, le cardinal Pacelli était nommé secrétaire d'État de Pion, c'est-à-dire, disons, le bras droit du pape, Pie XI. En 1937, le 14 mars, sous son attention, il a promulgué une encyclique avec l'aide de prélats allemands, qui s'appelle « Mit brennender Sorge ». Cette encyclique, rédigée en allemand, qui était signée de Pie XI, était en fait, en grande partie, un texte de Pie XII. Et alors, quelques jours plus tard, il y a eu une violente protestation du gouvernement allemand. Déjà, ça commençait, car il ne fallait pas parler contre le gouvernement allemand hitlérien, de quelque façon que ce soit. Les représailles étaient presque immédiates. En moins d'un mois, la protestation était violente. C'est pas simplement une protestation. Ça suscite des martyrs. On s'empare de prêtres, on s'empare de catholiques éminents et on les tue. C'est ça les représailles dans ces dictatures abominables. Et quelques jours plus tard, le 30 avril 1937, il y a eu une réponse énergique et définitive qui était signée par qui? Mais par le cardinal Pacelli, le futur Pie XII. Il savait ce qu'il avait à faire. Quand on l'accuse, je crois, moi, personnellement, après avoir étudié énormément la question, que c'est épouvantable de dire de cet homme qu'il a manqué à son devoir. Et vous verrez, si vous écoutez jusqu'à la fin, si vous avez la patience, vous verrez que je vous apporterai toutes les preuves. Et le 12 mars 1939, 2 ans plus tard, le cardinal Pacelli, juste avant la guerre, est élu pape.
La guerre se déclare. Mais avant que la guerre se déclare, le 5 mai 1939, Pie XII propose confidentiellement aux puissances qui sont presque en guerre une conférence à cinq pour régler les difficultés internationales. Mais le 20 octobre 1939, la guerre est déjà commencée. Et il publie son encyclique Summi Pontificatus. Je vous en parlerai. Plusieurs années plus tard, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1943, il y a à Rome une rafle des Juifs par les SS. Et écoutez bien ça, l'ambassadeur allemand, lui-même, de ce gouvernement nazi, est convoqué au Vatican. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il offre de faire tout ce qui est en son pouvoir. Parce qu'il a été convoqué, on lui a demandé. C'est le pape qui le lui a demandé. Alors il offre de faire tout ce qui est en son pouvoir sous la condition expresse pour le Vatican de ne pas faire état de son intervention, évidemment. Et là, de concert avec le pape, ils vont sauver des centaines de milliers de Juifs. Je n'exagère absolument pas, vous verrez, vous verrez. Le 29 novembre 1945, après la guerre, 70 Juifs revenus de déportation viennent eux-mêmes auprès du pape Pie XII pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour eux et pour tant d'autres. Non seulement ça, quelques jours plus tard, le grand rabbin de Rome, le grand rabbin Zolli, le chef des Juifs de Rome, demande son admission dans l'Église catholique. Comme il est veuf, il demande aussi l'ordination sacerdotale et devient prêtre. Croyez-vous que le grand rabbin Zolli de Rome aurait pu devenir prêtre catholique si Pie XII avait été l'abominable personnage que nos journaux en ont fait, même dans Le Devoir dernièrement? C'est invraisemblable. Et le 9 octobre 1958, 13 ans après la fin de la guerre, le pape meurt. Quelques années plus tard, 3 ans plus tard, il y a cette abominable pièce de Ralph Hochhut, le vicaire, qui fait tant de bruit. J'avais acheté il y a bien des années un livre de M. Esposito, au procès au vicaire. Pie XII est-il coupable? C'est quand on lit un tel livre qu'on se rend compte jusqu'à quel point le pape a été généreux. Car les accusations portées contre Pie XII, elles sont bien graves. On ne doit pas céder à la tentation, à mon avis, de l'indignation. Il ne s'agit pas de s'indigner. Il s'agit de chercher à comprendre. Et nous devons apporter cette accusation, comme on dirait, dans un laboratoire. Il faut analyser. Il faut regarder les faits. Il faut regarder quelles sont les obligations d'un pape. Comment il peut agir? Est-ce qu'il peut accuser de façon très officielle? Car au temps où Pie XII était pape et Hitler chancelier du Reich, parler en public comportait des responsabilités, surtout des risques, et des risques beaucoup plus grands que le seul fait d'épater les bourgeois. Et celui qui parle aujourd'hui peut parler beaucoup plus librement dans le monde actuel, mais dans quelques pays, c'est encore extrêmement difficile. Hitler était tout-puissant, capable de mettre la main sur le pape. Il a même songé à mettre la main sur le pape. On a des documents à ce sujet. Les documents sont clairs, hein, précis. On a tout. C'est terrible quand on y pense. Car le pape a failli être enlevé et soumis à une situation terrible en Allemagne, comme d'ailleurs Napoléon l'avait fait avec le pape Pie VII. N'oublions pas ça. Hitler était tout puissant. L'arrogance de Napoléon. Ça lui plaisait beaucoup, d'ailleurs. Et c'est pas là une hypothèse en l'air, hein. Himmler, vous connaissez Himmler, de son côté avait déjà préparé le projet de la déportation du pape, qui, en cas de besoin, aurait été mis à exécution en 24 heures. Mais la possibilité la plus catastrophique de l'avis des accusateurs les plus prévenus, ceux que l'auteur de la pièce de théâtre a pulvérisé par son record d'aversion puis de prévention, c'est une pièce abominable, c'était pas celle de la souffrance personnelle, c'est qui, puis d'où se craignait là, vraiment en premier lieu par-dessus tout, c'était l'éventualité d'empirer vraiment la condition déjà tragique de tous ces gens qui étaient persécutés, que ce soit les juifs ou les catholiques, et qui n'étaient déjà plus à l'abri d'aucune considération protection, aucune protection juridique. L'éventualité que cet Adolf Hitler se sente provoqué par quiconque tente de lui barrer la route, l'éventualité c'était qu'il se livre à de pires carnages encore, hein. Et l'attitude de Pie XII, malgré les circonstances extrêmement délicates où il se trouvait, a été extraordinairement courageuse, car le pape ne s'est pas vraiment tu. Et dans un très beau livre, dont beaucoup ont cru que ce n'était qu'un roman, qui s'appelle La Popesse, il y a des documents extrêmement précis, hein. Le rabbin Herzog, dans sa première lettre au cardinal Roncalli, écrivait « Monsieur Barlas, délégué de l'agence juive en Turquie, a porté à ma connaissance quelle précieuse assistance vous lui apportez toujours dans ses efforts pour venir en aide à nos malheureux frères et sœurs juifs qui se trouvent dans l'enfer hitlérien. À chaque fois qu'il s'agit d'un pays où l'influence spirituelle de l'Église catholique est suffisamment puissante, je sais bien que sa sainteté, le pape, est opposé au plus profond de son âme noble, à toute forme de persécution, et particulièrement à la persécution sans précédent par sa férocité et sans pareil dans toute l'histoire de la race humaine que les nazis infligent sans relâche au peuple juif, à qui le monde civilisé doit tant d'un point de vue spirituel. Je saisis cette occasion d'exprimer à votre éminence mes remerciements sincères ainsi que ma reconnaissance profonde pour votre attitude favorable envers Israël et pour l'aide inestimable apportée par l'Église catholique au peuple juif dans son malheur. Veuillez, je vous prie, transmettre ces sentiments exprimés depuis Sion à sa sainteté le pape avec l'assurance que le peuple d'Israël sait apprécier son aide et son attitude. Le rabbin Herzog était rabbin d'Israël. Et après la guerre, bien le grand rabbin Herzog est venu en personne voir Pie XII pour le remercier officiellement. Il voulait remercier le Saint-Père et le Saint-Siège pour leurs multiples actes de charité envers les Juifs. Alors je vous disais donc que le rabbin Herzog d'Israël a remercié le pape Pie XII après la guerre. Il y a de nombreuses attaques qui ont été portées contre Pie XII. Je vous l'ai dit, condamna son silence sur les atrocités nazies. Pourtant, à la fin de la guerre, les Juifs eux-mêmes ont estimé que le Vatican avait donné abri. Le Vatican, écoutez bien ça, c'est très important, avait donné abri à près de 200 000 réfugiés juifs et autres, et sauver 400 000 Juifs d'une mort certaine. Pinchas Lapide, consul d'Israël en Italie, devait déclarer plus tard « L'Église catholique sauva plus de vies juives pendant la guerre que toutes les autres églises, institutions religieuses ou organisations de secours prises tout ensemble. » Bon, ben, je le répète, c'est trop important. On dirait que personne ne sait ça ou ne veut le savoir. L'Église catholique sauva plus de vies juives pendant la guerre que toutes les autres églises, institutions religieuses ou organisations de secours prises tout ensemble. Qui parle comme ça, c'est le consul d'Israël en Italie, je vous le rappelle, Pinchas Lapide. Il termine en disant que l'Église catholique dépasse de loin toutes les actions de la Croix-Rouge internationale et des démocraties occidentales. C'est pas peu dire, mais j'ai bien d'autres témoignages comme ça. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de l'encyclique de Pie XI qui avait été rédigée en bonne partie par Pie XII. Reculons un peu dans le temps et voyons le concordat de 1933. On a souvent accusé Pie XII, qui était diplomate, nonce de l'Église catholique ou ambassadeur de l'Église catholique en Allemagne, d'avoir trahi l'Église. Mais à partir des documents d'archives du Vatican sur la Deuxième Guerre mondiale, le père Robert Graham, a réhabilité le fameux concordat passé entre le Vatican et l'Allemagne d'Hitler en 1933 sous le pape Pie XI. Et écoutez bien ça, un accord qui a souvent été cité par ceux qui critiquent l'Église et la détestent comme étant un signe d'une supposée collaboration du Vatican avec le nazisme. Eh bien, il dit, ce concordat n'était pas une alliance. Il n'impliquait aucunement que l'Église approuvait les doctrines et les tendances du national-socialisme de Hitler. Le pape Pie XII, alors qu'il était secrétaire d'État du Vatican, a d'ailleurs été l'une des chevilles, des chevilles ouvrières, pour la rédaction de ce document. Et lorsqu'il a eu à se servir de ce concordat, une fois devenu pape, il n'a jamais regretté la signature de cet accord entre le Vatican et le Reich allemand, affirme le père Graham, s'appuyant sur les documents qu'il a examinés. Le pape avait pour son dire que le concordat, au contraire, procurait aux catholiques une base juridique de défense contre la persécution croissante qui sévissait contre l'Église. Persécution croissante contre l'Église. On peut se demander ce que ça veut dire. Il y a eu de nombreux martyrs. En octobre 1939, le chef nazi Reinhard Heydrich adressait à Hitler un bilan sinistre de l'action antichrétienne du régime. Qu'est-ce qu'on avait fait? Dissolution des associations catholiques et protestantes, la fermeture des écoles confessionnelles, oui, la fermeture des écoles confessionnelles, effectuée les années précédentes au profit des monopoles totalitaires sur la jeunesse. Vous savez, ces grandes assemblées totalitaires où on enrégimentait la jeunesse et dès l'âge de 7-8 ans, on leur enseignait l'antisémitisme, le racisme et toutes sortes d'horreurs. Et la même chose, les monopoles existaient sur les citoyens qui étaient enrégimentés et endoctrinés. Tout ça avait produit leur effet destructeur contre l'Église catholique. L'influence du clergé avait baissé. L'instruction religieuse était réduite au minimum. La politique nazie de déconfessionnalisation a continué pendant la guerre de 39-45. Qu'est-ce qu'on a fait? On a confisqué les biens de l'Église. Il y a eu des expropriations en masse. Les fermetures d'églises, oui, d'églises et de couvents. Et le parti nazi s'est emparé des jardins d'enfants chrétiens où on formait l'âme des tout jeunes enfants. On s'est emparé aussi des institutions de bienfaisance, de charité. C'est incroyable, hein? Afin de couper ces espèces de canaux d'évangélisation et pour mieux prendre en main la population. Le 1er juin 1941, tous les périodiques confessionnels de l'Église ont été interdits et plusieurs facultés de théologie ont été fermées. Malheureusement, les Églises catholiques et protestantes ont vécu des dissensions internes au sujet de la conduite à tenir en face du nazisme. Alors, il y a eu parmi les croyants deux tendances. D'une part, les chrétiens allemands, Deutsche Christen, qui étaient partisans de la collaboration avec Hitler, et d'autre part, l'Église confessante, Bekennende Kirche. L'Église confessante était artisane courageuse d'une résistance à tout prix. Et en mai 1934,
un an après le Concordat, dans la Roure, eh bien, un synode a regroupé les résistants de l'Église confessante et le groupe oppositionnel calviniste du professeur Karl Barth, dont je vous parlerai sans doute un jour. Il était partisan d'une réplique théologique aux chrétiens qui collaboraient avec Hitler. Puis du côté de l'Église confessante, il y avait le pasteur Niemöller, qui avait protesté dès l'année précédente contre l'exclusion des pasteurs d'origine juive ou mariés à des juives. Et ce pasteur, qu'est-ce qui lui arrivera? Mais il a déjà été arrêté en mars 1938. Il a été envoyé en déportation à Dachau. C'est que quiconque relevait la tête était, pour ainsi dire, exécuté. Et quiconque relevait la tête entraînait l'exécution de bien d'autres personnes. Et du côté catholique, malgré les dissensions persistantes de la conférence épiscopale de Fulda en mars 1942, bien plusieurs évêques feront lire en chaire dans leur diocèse une lettre de protestation vigoureuse contre les mesures antichrétiennes. Et depuis Rome, bien, le pape Pie XII soutenait les évêques les plus résistants, comme le cardinal von Preissing, archevêque de Berlin, et Mgr von Gallen, archevêque de Münster. Et en septembre 1943, bien, les évêques de l'ouest du pays ont fait lire en chaire une lettre collective sur les 10 commandements de Dieu, sur le décalogue, condamnant le massacre d'innocents, ouvrez les guillemets, de races et d'origines étrangères, fermez les guillemets. Bon, la résistance spirituelle au nazisme a eu ses martyrs, et parmi eux, un jésuite. J'ai déjà vu un très beau film tourné en Allemagne, j'avais vu ça à Vienne, sur la vie du père Rupert Mayer, ou Rupert Maillé, si vous voulez, un jésuite, prédicateur intrépide, qui est mort d'épuisement en 1945, après 2 séjours en déportation. Ah, il faut voir ce film et voir la vie courageuse de cet homme jusqu'au moment où il est arrêté et massacré. L'abbé Auguste Ruff, qui était un passeur de juifs en Suisse, a été dénoncé et tué en 1944 à l'âge de 73 ans. Et un autre juif dont j'ai lu la vie, un prêtre, l'abbé Metzger, auteur d'un projet de paix destiné aux Britanniques et guillotiné en 1944, il y a aussi le doyen de la cathédrale de Berlin, c'est pas n'importe qui, hein, Bernard Lichtenberg, qui fut seul à prêcher contre les massacres de la nuit de cristal. Il a osé. Car oser poser un tel geste, c'est mourir, c'est évident. Il était arrêté en octobre 41. Il a demandé à accompagner les Juifs déportés en Pologne. Il est condamné à 2 ans de prison. Il est assassiné par la Gestapo à sa sortie de cellule. Puis à leur côté, il y a eu de nombreux laïcs qui ont été martyrisés, nombreux catholiques et protestants, souvent pour avoir manifesté leur opposition à la politique hitlérienne de guerre à outrance, et parfois pour avoir refusé catégoriquement de porter les armes. Vous savez, c'est très facile de dire « Ah, 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 si j'avais été là, si j'avais été là ». Quel courage a-t-on ici pour proclamer notre propre foi devant des gens qui s'en moquent? Qui se lève dans une assistance au Spectrum ou au Forum ou je ne sais où quand la foi catholique est attaquée? Je me souviens d'avoir été comme ça à une assemblée au Forum où je ne dirai pas quel groupe. Oh ben, je vais le dire, les cyniques. C'était moqué de l'Eucharistie et des hosties, parlant d'hosties toastées, comme on disait à l'époque, et de blagues absolument grossières. Et d'un seul bond, je me suis levé, je me suis mis à crier pour protester. Bien, savez-vous ce qui s'est passé? Nous étions des milliers à protester. Qu'est-ce qui est arrivé aux cyniques? Ils sont descendus de scène et ils sont partis. Vous savez, si on avait le courage, il suffit de se lever une personne, puis il y en a 100, il y en a 1000 qui se lèvent, parce que les gens n'acceptent pas ces grossièretés-là si facilement. Et j'aimerais bien vous rappeler aussi que le Vatican de Pie XI et du cardinal Pacelli, le futur Pie XII, là, je vous l'ai dit, ils avaient rédigé cette lettre encyclique, Mit Brennen der Sorge, ce qui veut dire « avec un souci brûlant ». Quel beau titre, hein? « Avec un souci brûlant ». Il condamnait sans équivoque le nazisme. C'est Pacelli, ça, Pidouze, qui a rédigé en grande partie cette encyclique. Parce qu'il était secrétaire d'État, c'est-à-dire le bras droit de Pie XI. C'est un document historique qui a été transmis secrètement à tous les curés de paroisse allemands. Comment? C'est que c'était passé par la valise diplomatique, entré à l'ambassade, c'est-à-dire à la nonciature apostolique de Berlin. Et là, le plus souvent, c'était lu en chair. Ils avaient du courage, ces prêtres. Oh, on dira, les curés. Ben oui, même parfois, quand ils ne sont pas très très drôles, ils ont plus de courage que bien d'entre nous. Et à la grande fureur de la Gestapo, et on a procédé à des représailles contre bien des prêtres. Car le texte accuse Hitler et l'hitlérisme de répandre, livrait de la suspicion, de la discorde, de la haine, de la calomnie, de l'hostilité fondamentale, secrète et ouverte au Christ et à son Église. Et ainsi, les catholiques d'Allemagne étaient-ils prévenus sans ambiguïté à la veille du déclenchement, c'est-à-dire de ce conflit mondial épouvantable au début de septembre 1939. Il faut l'avoir vécu. Il faut être allé au cinéma à l'époque et voir les bombardements, voir les édifices, les villes s'écraser. Il faut avoir tout vu ça. On a tout vu ça dans notre enfance. Et vous l'avez vu maintenant dans les plus jeunes, à la télévision, on les a reproduits. On les repasse de temps en temps. Vous avez des documents magnifiques sur toute cette époque. Regardez-les, ne changez pas de bouton. Regardez ce qui s'est fait et songez que ce pape Pie XII disait dans une encyclique Summi Pontificatus, nous devons considérer comme un devoir de notre ministère apostolique et de l'amour chrétien de mettre tout en œuvre pour épargner à l'humanité entière et à la chrétienté les horreurs d'une conflagration mondiale, même au risque de voir nos intentions et nos buts mal compris. Alors, si on veut bien comprendre la fermeté de cette décision-là, qui engageait non seulement sa personne, mais aussi toute l'Église qu'il incarnait, il faut, je vous le répète, encore, il faut nous replacer dans son contexte. La guerre, une fois déclarée, malgré toutes les tentatives diplomatiques que le pape avait exercées, bien ce pauvre Pie XII allait multiplier les démarches. Oui, il a multiplié les démarches pour sauver la vie de nombreux juifs et pour soutenir les chrétiens dans les zones occupées par les Allemands. Ces interventions nombreuses en faveur des Juifs, par l'intermédiaire des nonces ou des ambassadeurs en Hongrie, par l'intermédiaire de Mgr Rotta, dans les Balkans, grâce à qui? À Mgr Roncalli, le futur Jean XXIII, dont on va célébrer demain l'anniversaire de son élection. Ou bien par celui d'organismes tels que la Croix-Rouge même. Et la Croix-Rouge, vous savez, a beaucoup hésité à collaborer avec le pape. Ça s'appelait Joint Distribution Committee. Ou bien, qu'est-ce que le pape faisait? Il obtenait qu'on remplisse les communautés religieuses qui avaient des grands bâtiments de réfugiés de toutes sortes, qu'on les cache. Et ça n'a pas toujours été un succès, car beaucoup ont été pris. On a vu dans ce film épouvantable qui est passé quelquefois à la télévision, un moine bénédictin. Car il y a des bénédictins en France, dans la congrégation de la Pierre qui vire, qui enseignent. Et parce qu'il avait caché dans son petit collège quelques juifs, quelques enfants juifs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à sauver des enfants juifs? Grand Dieu, qu'est-ce que ces nazis qui arrêtent ses enfants dans le collège et qui s'emparent du responsable? Et qui part à la fin du film en disant au revoir, les enfants. Oui, ils croient à la vie éternelle, Au revoir, les enfants. Eh bien, ça n'a pas toujours été un succès, mais il y a eu tellement de succès que c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le consul d'Israël à Milan, qui disait « Le pape, personnellement, le pape personnellement, le Saint-Siège aussi, les nonces et toute l'Église catholique ont sauvé de 150 000 à 400 000 juifs d'une mort certaine. Et il ajoute, écoutez bien ça, c'est très important. Lorsque j'ai été reçu à Venise par Mgr Roncalli, qui était devenu patriarche de Venise, on appelle le cardinal archevêque de Venise patriarche, hein, vous savez ça. Donc, lorsque j'ai été reçu à Venise par Mgr Roncalli, et que je lui exprimai la reconnaissance de mon pays, Israël, pour son action en faveur des Juifs, il m'interrompit à plusieurs reprises, pour me rappeler qu'il avait chaque fois agi sur ordre précis de Pie XII. Bon, j'ai bien d'autres preuves. Oh, j'ai le goût de vous lire ce beau texte d'Albert Einstein que vous connaissez. Un juif, un des plus éminents juifs de ce siècle. Hein? Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes avaient, au risque de leur propre vie, là, on le sait, ils avaient protégé, caché, nourri des familles juives. En France, le père Chaillet, jésuite, le père Devaux, qui appartenait à cette fameuse congrégation des pères de Sion, fondée par des juifs, par le père Alphonse Ratisbonne et son frère jésuite qui est devenu père de Sion avec l'autre. Et beaucoup de juifs convertis sont entrés dans cette congrégation, donc le père Devaux, puis le pasteur protestant Vergara, ont réussi, eux, simplement à faire passer 4000 enfants juifs en Suisse. Vous savez que c'est pas facile faire passer un enfant juif en Suisse. Au n'importe quel moment, on peut se faire arrêter, se faire tuer. C'est risquer sa vie pour sauver un enfant. Ils en ont sauvé 4000. Ils en ont caché 8000 autres en France même. Cacher un enfant, c'est un immense risque. Qui prendrait ici le risque de cacher un juif d'Outremont avec ses frisettes et ses chapeaux et tout ça, là? Qui parmi nous le ferait, le cacher chez soi? Qui? Qui? En mai 1988, la revue Columbia affirmait que des centaines de milliers de Juifs avaient été sauvés suite aux instructions de Pie XII au clergé catholique romain d'Europe. Le 30 décembre 1944, donc avant la fin de la guerre, la revue catholique de Londres, The Tablet, je vous ai lu ce texte le 9 octobre, publie un témoignage du grand savant juif Albert Einstein. Je vous lis la traduction française. Je vous la relis, tellement c'est beau. C'est Albert Einstein qui parle. Quand vint la révolution en Allemagne, écoutez bien, je me tournai vers les universités, sachant qu'elles avaient toujours professé leur dévotion à la cause de la vérité. Mais non, elles furent immédiatement réduites au silence. Comment ça se fait que ces professeurs d'université acceptaient de garder le silence parce qu'ils savaient que c'était inutile de parler, qu'ils mourraient immédiatement? Auraient-ils dû tous ensemble au même moment se dresser? Mais comment faire? Einstein poursuit. Je regardais donc vers les éditeurs des grands journaux, donc comme Le Devoir, n'est-ce pas? La Presse, le Journal de Montréal. Je regardais donc vers les éditeurs des grands journaux dont les ronflants éditoriaux d'antan avaient professé l'amour de la liberté. Comme les universités, ils furent réduits au silence en quelques semaines. Eh oui, beaucoup de nos éditorialistes sont réduits au silence ces jours-ci. Je recourus donc, dit Einstein, aux écrivains et littérateurs qui avaient écrit beaucoup et souvent sur la valeur de la liberté dans la vie moderne. Eux aussi étaient silencieux. Même les écrivains, les littérateurs, tous ces gens qui se regorgent de beaux livres et de belles choses, là. Mais silencieux. Qu'est-ce qu'Einstein ajoute? Il dit, seul entre toutes, l'Église catholique se plaça carrément en travers de la campagne hitlérienne de suppression de la vérité. Jusque-là, Je n'avais pas ressenti d'intérêt particulier à l'égard de l'Église catholique. Mais de ce moment, j'ai commencé à connaître l'affection et l'admiration pour son courage. Parce que seule, seule, elle avait eu ce courage et cette persistance de s'affirmer pour la vérité intellectuelle et la liberté morale. C'est pourquoi, termine Albert Einstein, c'est pourquoi je suis maintenant forcé d'avouer mon admiration sans réserve pour ce que j'ai méprisé autrefois. Comment peut-on toujours revenir sur ces questions pour débattre, débattre et débattre? La position du pape Pie XII, compte tenu des informations qu'il avait, s'explique par son souci d'éviter une persécution générale qui aurait empêché l'Église de remplir sa fonction puis de prévenir l'avenir. Vous savez, il y a eu la réponse donnée par Mgr Sapiema au cardinal Pagazzi qui avait été envoyé par Pie XII. Ça nous permet de comprendre la situation. Ce Monseigneur disait, « Personne plus que nous, Polonais, ne peut lui savoir gré de son intérêt. Mais si jamais je devais publier ces papiers, ou si on devait les trouver chez moi, toutes les têtes des Polonais ne suffiraient pas pour les représailles que le Gauleiter Frank ordonnerait. Il ne s'agirait pas seulement des Juifs, il nous tuerait tous. » Quelle utilité y aurait-il à dire ce que tout le monde sait? Il est naturel que le pape soit avec nous, mais point n'est besoin de rendre publique la condamnation du pape si elle sert à aggraver nos maux, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est une réponse grave, mais c'est partiel. En effet, la vérité a ses droits qui l'emportent parfois sur les exigences de la prudence. Trop de chrétiens se sont laissés gagner à une espèce de silence coupable, par un enchantement de compromis où la peur a joué son rôle. Mais aucune considération d'opportunité ne devrait arrêter les responsables de l'Église lorsqu'il s'agit de défendre la foi. Mais justement, il ne s'agissait pas de la foi. La position théorique de l'Église face au nazisme, à ses méthodes d'éducation, à sa conception du bien commun, était parfaitement claire et connue, hein? L'encyclique dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Mit brennender Sorge », les contenait explicitement, c'est-à-dire la condamnation du racisme était également catégorique dans cette encyclique. Bien avant qu'on ne parle de camp de concentration, le problème dans lequel on voudrait que le pape ait pris parti est bien un problème d'opportunité politique. Fallait-il que le minuscule État du Vatican prenne le risque de s'attaquer à ce grand colosse nazi et d'appeler les catholiques à la désobéissance civique et à la résistance généralisée pour préparer la voie à l'action des alliés? C'est le cardinal Tisserand qui a dit que le pape s'était posé la question. Cardinal Tisserand, français, n'est-ce pas, qui boitait un peu, mais qui était très brillant. À plusieurs reprises, il disait, Pie XII évalua les circonstances. Il fut sur le point de dénoncer le drame de la persécution hitlérienne contre les Juifs, dont par ailleurs il n'avait pas une idée complète, comme nous l'eûmes après la fin du conflit. Et si Pie XII préféra à la protestation l'action souterraine en faveur des victimes du nazisme, il le fit uniquement pour ne pas aggraver leurs conditions dramatiques. C'est un choix, n'est-ce pas? C'est un choix qui, comme toujours, dans des domaines comme ça, là, c'est susceptible d'erreurs d'appréciation, mais ce n'est accompagné d'aucun gauchissement de la pensée du pape, hein. Aucune compromission idéologique. Au grand rabbin de Rome, je vous l'ai dit, accueilli au Vatican en pleine guerre, le pape rappelait que lui aussi était, par Jésus-Christ, hébreu. C'est le pape qui dit qu'il était juif, par Jésus-Christ. C'est un grand pape que ce pape Pie XII. Si vous lisiez tout ce que j'ai lu, j'aurais le goût de vous en parler pendant 20 heures. Tellement j'ai de l'admiration, je l'ai connu, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai beaucoup lu à son sujet. Je suis content de lui avoir rendu ce témoignage aujourd'hui.